Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 28e de notre 11e saison et notre invité est aujourd'hui André Hernandez. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes toujours en tout cas maire de Canet-d'Aude, mais vous êtes surtout, et c'est peut-être encore plus intéressant pour l'avenir, président de l'intercommunalité de Lézignan, donc la communauté de communes.
Alors, Corbières-Minervois.
Ouais, voilà, Lézignan et Corbières-Minervois, c'est toujours très long à dire. On parlera d'interco de Lézignan.
De Lézignan, ce sera très bien.
Si vous le voulez bien, voilà. Un petit rappel d'abord pour les auditeurs. Cette émission Radio Barque sera un petit peu plus courte que d'habitude, car notre station Grand Sud FM doit être en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne un peu plus tard dans la matinée. Donc voilà, il fallait le savoir. Mais bien entendu, nous sommes là. André Hernandez est là, bien présent. Et nous allons entamer cette émission par... Alors, deux mots rapidement de la commune. Vous êtes maire depuis alors 35 ans.
C'est mon sixième mandat, oui.
Sixième mandat. Mais vous avez, si je puis dire, préparé la relève.
Tout à fait. Hein,
c'est prévu pour les prochaines élections à Canet-d'Aude. Donc pour vous, là, ce problème-là, il est, on peut dire, réglé.
Il est réglé.
Voilà. Et alors, curieusement, d'ailleurs, c'est un Hernandez également qui est pressenti pour vous succéder.
Oui, c'est mon premier adjoint.
Mais c'est un homonyme, mais pas...
Un homonyme, mais pas du tout parent.
Voilà, bon, c'est une petite coïncidence.
Mais on me pose souvent la question.
Ben, j'imagine, oui, voilà, oui, bien
pas,
sûr.
C'est pas du tout un lien, on n'a pas de lien de parenté.
Voilà. Mais vous êtes, alors, ça c'est votre premier mandat, par contre, président de l'Interco de Lézignan. Et André Hernandez, d'ailleurs, vous venez assez régulièrement dans cette émission. Je vous remercie d'ailleurs d'y participer. Et la dernière fois que vous êtes venu, vous nous aviez clairement déterminé quelles sont vos priorités dans ce mandat, à savoir la santé et l'eau. Je pense que 6 mois plus tard, vous n'avez guère changé, parce que ce sont des projets à long terme. Alors, en ce qui concerne la santé, tout d'abord, où en êtes-vous ?
Alors, je n'ai pas changé. Ces deux objectifs sont toujours prioritaires. Et puis, je vous dirai, pour répondre donc à votre introduction, que je suis ravi également de venir dans votre émission. Alors, la santé, je vous avais dit la dernière fois, et je le répète, c'est un dossier extrêmement brûlant et vraiment prioritaire pour nous. Pourquoi ? Parce que très bientôt à Lézignan, il n'y aura plus de médecine libérale. Il y a actuellement un cabinet de médecins libéraux qui va fermer au 30 juin, avec des médecins qui, la plupart, ont prévu de prendre la retraite ou de partir, d'ailleurs, de Lézignan. Donc la population lézignanaise ne s'en doute pas, mais si nous n'avions rien fait, on avait véritablement un désert médical. Et donc, nous avons anticipé en disant, que peut-on faire ? Et là, nous avons fait le choix, et je vous l'avais dit, et je le répète, de faire un centre de santé avec des médecins salariés. Alors aujourd'hui, au moment où je vous parle, le chantier a débuté. Les premiers médecins seront donc recrutés dès le 1er juillet. Et je pense que ce centre de santé sera opérationnel, c'est-à-dire les travaux terminés au mois de septembre-octobre, comme les entreprises nous l'ont dit.
Oui, c'est assez rapide, ça semble rapide.
Alors c'est rapide parce que pour aller très vite, nous avons choisi du modulaire. Et donc évidemment, ça va beaucoup plus vite puisqu'on vient, on pose des modules. Et le chantier dure beaucoup moins longtemps.
Oui, oui, oui. Avec l'avantage aussi peut-être que en cas d'extension, on ajoute des modules.
Il suffit d'ajouter des modules, d'ailleurs c'est ce qui est prévu.
Hein. Oui, c'est ce qui est prévu.
Nous avons prévu 4 cabinets pour des médecins, mais si demain il en faut 4 autres, sans aucun problème, ce projet est évolutif et on pourra le greffer à côté de l'hôpital de Lézignan.
Oui, voilà. Alors, lieu prédestiné. Ça jouxte l'hôpital.
C'est intéressant pour nous parce qu'il pourra y avoir un lien de travail entre l'hôpital et ce centre de santé. Et il pourra y avoir donc des liens qui pourront se créer avec les médecins et également avec les services. Parce que si, par exemple, quelqu'un vient au centre de santé et a besoin d'une radio, très vite, il sera possible de contacter l'hôpital si c'est urgent.
Oui, oui, oui. Gros avantage de proximité qui n'est pas à démontrer. Alors, dans un centre de santé, parce que il y a centre de santé, il y a maison de santé, le vocabulaire est un petit peu particulier, il faut pas se tromper. Centre de santé veut dire des médecins salariés.
Mais c'est un salarié, c'est un choix. Alors, nous avons mûrement réfléchi à cela. Mais on s'aperçoit que c'est très difficile aujourd'hui de faire venir des médecins libéraux. Et là, par contre, cette profession un petit peu salariée pour le médecin est un peu attractive pour certains. Et donc, nous avons opté pour cela. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire qu'on a 3-4 médecins qui déjà vont signer un contrat avec nous dès le mois de juillet ou dès le mois d'octobre, puisque, comme je vous l'ai dit, on pourra ouvrir qu'au mois d'octobre. Mmh. Mais cependant, pour ne pas privilégier l'année de médecine, nous avons, entre juillet et le mois d'octobre, loué un local dans la ville de Lézignan pour y mettre déjà 2 médecins avec une secrétaire médicale, de manière à ce qu'il y ait continuité.
Oui, donc ce système est opérationnel dès le début de l'été.
Dès le 1er juillet.
Dès le 1er juillet.
Donc, communiquera évidemment à l'endroit où on pourra avoir les médecins, et ensuite, évidemment, tout ceci sera transféré dès le mois d'octobre, sur le centre de santé que nous aurons inauguré.
Voilà. Donc, bon, alors ça c'est pour... Alors, c'est pour les Lézignanais intramuros, si je puis dire, mais également l'ensemble à terme de l'aglo, enfin, ou de la Comcom.
Alors, oui, parce qu'il faut qu'on réfléchisse à l'échelle territoriale.
Parce qu'il y a d'autres...
Bon, on ne part pas de rien, puisque déjà à Saint-Laurent de la Cabrerisse, nous avons un centre de santé avec un médecin salarié, si vous voulez. Nous avons...
De la commune, alors, ou de la...
De la communauté de communes.
De la communauté.
Oui, nous avons cette expérience. Nous savons que ça marche très bien.
Ça a été donc, le premier à Saint-Laurent.
Oui, ça a été le premier. Et donc, aujourd'hui, ça continue. Il n'y a aucun souci. Et ensuite, on a un projet de maison de santé. Alors, la maison de santé... Effectivement, ce ne sont pas des salariés, ce sont des libéraux, sur la Grasse, à l'ancienne cave coopérative, que nous voulons démolir et voulons construire un centre de santé. Donc, vous voyez, il faut qu'on travaille à l'échelle territoriale, parce que on ne peut pas, évidemment, se consacrer uniquement au bourg-centre. Il faut qu'on réfléchisse aussi comment on va aller vers ces communes en ce qui concerne le problème de la santé.
Oui, voilà. Mais enfin, tout ça est bien sur les rails, bien déterminé, et vous avez donc, vous dites, déjà une petite expérience de ce type de fonctionnement.
Ce type de fonctionnement, déjà, est actif chez nous, et donc nous savons comment ça fonctionne, et nous avons des résultats qui sont satisfaisants.
Voilà, oui. Bon, donc, quelque chose, un projet ficelé, si je puis dire, qui...
Vraiment sur les rails.
qui est vraiment sur les rails, oui. Alors... Là, je passe peut-être du coq à l'âne, mais je tiens quand même à le faire. La dernière fois, Monsieur Hernandez, vous nous aviez parlé également, alors d'un autre sujet, peut-être moins agréable, les problèmes avec les gens du voyage. Vous avez sur votre communauté de communes une aire d'accueil à Cruscade qui avait été fort rudoyée, malmenée, vandalisée, c'est ça ?
Vandalisée, c'est le mot.
Oui. Et alors, où en est-on ? Alors, vous aviez montré une certaine fermeté en disant il y a de l'électricité, de l'eau à payer faite illégalement et je ne débourserai rien du tout. Où en êtes-vous dans ce genre de décision ?
Je vous confirme qu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas payé les factures d'eau et les factures d'électricité pour les gens qui ont occupé illicitement l'aire d'accueil du voyage, puisque je souhaitais qu'on les fasse évidemment dégager de là. Et je persiste, et donc les services sont bien avertis qu'il est hors de question que nous payons, que les gens du territoire payent pour ces gens qui ont volé, en quelque sorte, de l'eau et de l'électricité.
Voilà.
Donc je suis ferme sur cette position.
Alors ça, c'était le passé récent, mais bon, vous le savez, vous devez quand même, vous, avoir une aire d'accueil qui fonctionne, c'est la loi apparemment. Alors qu'avez-vous fait après ça ?
Alors d'abord, il a fallu, puisqu'elle avait été vandalisée, il a fallu tout réparer. On a eu à peu près pour 180 000 euros.
Donc, au frais de l'aglo.
Au frais de l'aglo. Bon, on a eu quand même une subvention de l'État, puisque le sous-préfet a bien compris quand même qu'il fallait nous aider. Et aujourd'hui, bon, ben, l'aire a réouverte, alors elle est fonctionnelle. Je dirais que globalement, ça se passe bien. Après deux interventions, quand même, où il a fallu débrancher illicitement tous ceux qui s'étaient branchés sur le transformateur avec des fils qui couraient comme ça à même le sol.
Ça avait recommencé.
Ça avait recommencé. Donc, avec la chaleur d'aide de l'appui de la gendarmerie et Enedis, nous avons fait une opération, nous avons tout débranché. Quelques temps après, ils se sont à nouveau rebranchés. Nous sommes de nouveau revenus dans une opération avec la gendarmerie Enedis. Nous avons de nouveau débranché. Aujourd'hui, compte tenu quand même qu'il y a eu quelques amendes, nous avons aujourd'hui une aire qui fonctionne correctement avec des gens qui respectent plus ou moins quand même le règlement.
Et ces amendes ont été payées?
Oui, elle a une qui a été payée d'ailleurs. Alors, comme le gars était solidaire, c'est lui qui a écopé pour l'ensemble en espérant qu'il va pouvoir évidemment demander aux autres de participer. Mais oui, il faut en arriver là, parce que s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas d'amende,
oui,
on récidive. Et là, peut-être ça va les faire réfléchir.
Voilà, bon, il faut que ça se dise, sur l'aire d'accueil du Lézignané, on fait pas ce qu'on veut et on se branche pas comme on veut.
Oui, mais sachez quand même aussi que tous les matins, deux employés de la communauté de communes vont là-bas pour s'occuper d'eux, pour voir tout ce qui ne fonctionne pas. Donc en matière de fonctionnement, c'est pas rien quand même. Hein.
Ah oui, il y a aussi du personnel affecté.
Personnel qui, tous les jours, qui sont là pour régler tous les problèmes, pour vendre des jetons pour l'électricité, pour l'eau, etc., pour vérifier que tout marche bien, pour réparer éventuellement quelques fuites ou autres. Voilà, donc c'est un fonctionnement, c'est quand même coûteux.
Oui, voilà. Il est bon de le souligner, mais enfin, si ce coût évite le vandalisme et les dépenses illicites qu'il y a eu auparavant, c'est peut-être une compensation.
À partir du moment où les gens sont respectueux, comme je vous disais, tout peut se passer correctement.
Alors, une agglomération, une communauté de communes, finalement, c'est la même chose à une échelle un peu différente, mais c'est le même type de fonctionnement, a alors un certain nombre de compétences. On l'a évoqué. Il y a notamment alors ce qu'on appelle l'environnement et la collecte des déchets. Et ça reste en général un gros poste budgétaire.
C'est un gros poste budgétaire de l'ordre de 6,5 millions d'euros chaque année. C'est ce que nous prélevons sur la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Nous avons acheté cette année deux camions tout neufs pour que notre personnel puisse rouler dans des engins évidemment tout à fait corrects. Et voilà, nous avons détourné et puis nous engageons un peu comme a fait d'ailleurs le Grand Narbonne sur des colonnes enterrées. Aujourd'hui, nous allons inaugurer très bientôt à Saint-Laurent-d'Arc-Boris et je me suis engagé à faire 10 chantiers par an de manière que nous puissions multiplier un petit peu cette initiative qui fera que les endroits seront plus propres, mieux respectés pour l'avenir.
10 chantiers, ça veut dire enterrer une...
Alors voilà, c'est 5 ou 6 colonnes enterrées sur un poste qui permet évidemment de garder un endroit beaucoup plus propre et un ramassage évidemment particulier puisque c'est plus de la même manière qu'on ramasse
l'ordure ménagère,
c'est un camion
différent.
Avec une grue qui vient. Voilà. Mais il y a un engagement fort de la communauté de communes puisque nous prenons en charge les investissements de ces colonnes qu'on enterre. Donc la commune a sa charge, on va dire, tout ce qui est goudron ou ciment, etc., pour implanter les colonnes. Et puis ensuite, c'est nous qui prenons à peu près pour 45 à 50 000 euros par unité, qui prenons en charge cet investissement.
Mais à chaque fois, c'est une collaboration commune-aglo.
Commune-aglo, toujours. Il faut qu'il y ait évidemment la volonté. On demande aux communes si elles le souhaitent. Et c'est souvent comme ça. Et sur les Ignans, donc, comme c'est le bourg-centre, je pense faire 2 chantiers par an.
Oui, d'accord. Donc, l'avenir, c'est l'enterrement de ces choses-là. Alors, l'enterrement caché sous terre.
Sous terre, mais on le voit beaucoup dans le Narbonnais.
Oui, bien sûr, en Narbonneville, par exemple.
Et
aussi.
Puis, vous savez, dans les petites communes, les toutes petites communes, finalement, les maires ont regroupé tous les conteneurs au même endroit.
Oui, comme ça.
Donc, finalement, là, ça sera judicieux. On supprime tous ces conteneurs, on fait ce qu'on intéresse, c'est à la vue, évidemment, c'est beaucoup plus...
Et puis, hygiéniquement aussi,
et puis pour l'environnement. Et donc, voilà, c'est des projets, je pense, qui vont satisfaire les communes et les maires.
On marque, André Hernandez, une première pause. On se retrouve dans une seconde partie où on parlera alors d'un dossier qui vous est cher également, l'eau, mais également de l'avenir politique, puisqu'on va entrer très prochainement en période électorale. À tout de suite.